Une émission au cœur du développement durable. Impact, c'est tous les mercredis sur Alger 3.
Minutes et 33 secondes pour la petite précision. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour pour ce numéro d'Impact. Nous sommes le mercredi 15 juillet de l'an 2026. On va s'intéresser au changement climatique, mais sous un angle assez particulier. C'est l'été, il fait chaud, il fait très humide aussi, notamment sur le littoral. Et il y a un impact sur les activités socio-économiques de ces changements climatiques, notamment dans l'espace marin, maritime et littoral. Il y a un impact aussi sur les courants marins. On va le voir. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir en direct de nos studios Dr Mustapha Boujina. Bonjour.
Bonjour Hamid.
Vous êtes directeur de recherche au niveau du CNRDPA.
Directeur de la division de recherche.
Division de recherche.
Aquaculture.
Aquaculture. CNRDPA, c'est le Centre national
de recherche et développement de la pêche et de l'aquaculture.
Très bien. Et on attend d'un moment à l'autre. C'est les embouteillages de l'été, de la saison estivale. Beaucoup de gens sont en vacances et en congé. Nous, on travaille dans le service public, donc on est là pour vous informer. Le professeur Yassine Hamdan vient nous envoyer un message et il est bloqué quelque part. Il va pas tarder à arriver. Lui va nous parler des courants marins. Mais peut-être une petite parenthèse pour parler d'actualité avec vous, docteur Boudinet. Oui. Il y a eu un blackout, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Nous, on parle des changements climatiques. Oui. Et c'est parce que il y a ces bouleversements climatiques, qu'il y a ces températures caniculaires, que quelque part.
C'est un effet domino, c'est comme un effet domino.
C'est comme un effet domino.
Chaque chose touche l'autre et ça tombe. Ça mais bon, je pense que c'est vraiment des trucs qui arrivent normalement avec la situation de la chaleur, quand il y a de fortes chaleurs et de fortes consommations. Donc, c'est normal, je pense.
Oui. On peut prendre des exemples à travers le monde. Quand il y a de très fortes températures, on se rappelle du 28 avril 2025.
Du blackout avec l'Espagne qui a eu en Espagne.
Portugal.
Au Portugal. L'Espagne, ils ont mis presque une semaine pour rétablir les choses.
Donc, alors qu'en Algérie, ça fait quelques heures à peine. D'où la performance des travailleurs.
Oui, c'est excellent. On voit un peu la rapidité.
Que, oui, et dans des conditions très, très, difficile. Très difficiles. Oui. L'Algérie, c'est un pays continent. Et rétablir l'électricité un petit peu partout en un temps record, alors qu'il y a près d'une centaine de foyers d'incendie, ce n'est pas quelque chose de facile. Les structures sont sur tous les fronts. La protection civile est sur le front, la direction générale des forêts, les éléments de l'armée nationale populaire sont sur tous les fronts pour essayer de préserver. On parle d'environnement, donc on parle de couvert végétal, de forêt. Donc c'est tout à fait normal de rendre hommage aux personnes qui protègent l'environnement, qui sont sur le terrain et qui font face. Et d'un côté, il y a le groupe Sonelgaz qui, à travers ses différentes filiales, qui font de la production, du transport et de la distribution. Donc, quand on est indisposé par quelques heures d'arrêt, il faut prendre son smartphone, faire une recherche sur Tonton Google et voir les blackouts au niveau mondial.
Combien
ils ont duré dans les pays, je parle des pays développés, parce que pour avoir un blackout, il faut savoir que nous avons de l'électricité. Pour avoir de l'électricité, il faut savoir qu'une centrale électrique, c'est quand même $1 milliard. Et oui. Ce milliard de dollars est parfois supérieur au budget de tout un pays sur le continent dans lequel nous vivons, en Afrique. C'est quand même beaucoup. Donc, avoir des coupures d'électricité, la dernière remonte quand même à quelques années, alors que toute la planète connaît un climat, que toute la planète est, y compris sur la ligne entre le détroit d'Ormuz et le Venezuela, ça bouillonne pour les questions énergétiques. Et nous, installés dans notre confort, lorsqu'on n'a pas de l'électricité pendant 4 heures la nuit, on rouspète. Ah ben, il faut qu'on rouspète, mais tout en ayant connaissance de tout ce qui se fait à travers le monde, y compris les blackouts. Oui, cela dit, parenthèse fermée, on se dirige vers l'espace marin et maritime, votre domaine de spécialité. Est-ce que cette hausse de température a un impact, oui ou non, sur le poisson, sur la mer, sur la température de l'eau? On parle de réchauffement de la mer Méditerranée. Qu'en est-il au juste?
Vous savez, les milieux sont en équilibre.
En équilibre.
Et cet équilibre, il est installé sur des paramètres, la température, la salinité, l'oxygène, et donc l'humidité. Et ça, donc ces équilibres, dès qu'il y a un changement, forcément, on voit ce changement qui va se retrouver dans le milieu. Parce que, je vous donne juste un exemple. Par exemple, pour une reproduction d'une espèce, nous, on va déterminer le degré jour. On va calculer le degré jour à partir d'une certaine température. Par exemple, on voit, par exemple, pour certaines espèces, je donne par exemple la carpe.
Ou la dorade royale.
La carpe. Nous allons déterminer, on va calculer le degré jour dans l'eau à partir de 18 degrés. Donc dès qu'on atteint de 211, 250, je ne me rappelle plus, degrés jour, la carpe, elle est arrivée à maturité. Donc ça, vous voyez à peu près comment...
Oui, il y a un minimum.
Voilà. Et comment ça se passe? Donc à partir de 18 degrés, nous commençons à calculer pour déterminer la période de ponte. Et tout ça est dans un contexte global où il y a les conditions climatiques, le développement du phytoplancton, du zooplancton, qui va être équilibré pour permettre justement le développement des alevins, la période larvaire. Et donc, imaginez que tout cela va être décalé ou perturbé.
Décalé ou perturbé par
les changements climatiques.
Qui peut être
soit un refroidissement, soit une augmentation de la température. Tout cela va être perturbé. Et donc, soit les espèces vont changer de lieu de reproduction, soit ils vont être bloqués par des températures, soit avoir des problèmes dans le cycle.
Donc tout cycle de reproduction.
Et cela va forcément avoir un impact direct sur la ressource.
Alors comment est-ce que on peut mettre en place avec les services de l'Office national de la météo un modèle prédictif, modèle mathématique bien entendu, pour essayer de contrecarrer ou alors s'adapter au changement climatique en matière d'aquaculture?
En aquaculture, on sort un peu du schéma naturel, puisque nous allons nous-mêmes, quand on fait de la reproduction, on va prendre les espèces, on va les reproduire à des périodes où ils ne se reproduisent pas normalement. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, nous allons maîtriser la photopériode, la température, la salinité. Donc on va leur donner un temps de luminosité bien précis qui permette le développement, une température bien précise. Et donc on peut décaler. Par exemple, pour la dorade, on décale. On a une reproduction avant terme, reproduction à terme et reproduction après terme.
Donc peut-être une petite précision si vous permettez,
Mustapha Boutsmer.
Vous intervenez et vous changez des facteurs, des paramètres.
Oui.
Est-ce dans des cages en milieu naturel?
Non.
Ou alors
donc,
c'est
en écloserie.
Là où vous maîtrisez le maximum de paramètres.
On doit pouvoir maîtriser les paramètres, la température. On va pas pouvoir la maîtriser dans des cages flottantes. Mais en écloserie, donc nous avons des systèmes de recirculation, de refroidissement. Et donc ça permet un peu d'avoir une maîtrise totale de cette opération de reproduction. Et donc, je vous dis donc par rapport à ça, mais dans le milieu naturel, c'est pas possible de trouver par exemple
les paramètres. On peut pas les maîtriser.
Bien sûr,
s'il y a une période de hausse de température de l'eau, c'est pas évident de pouvoir s'adapter. Et le professeur Yassine Hamdan arrive à l'instant. Bonjour professeur, prenez place, installez-vous. Avec Dr Boudjinah, on est en train de parler de variables et avec vous, on va parler tout à l'heure de courant. Et donc, en milieu naturel, il est possible de... on fait un essai micro, professeur Hamdan, bonjour, voilà, très bien, bonjour. Beaucoup de circulation, j'imagine, et bon, j'espère que vous avez éteint votre climatiseur durant le trajet pour ne pas avoir une empreinte carbone assez élevée. Alors, en milieu naturel, on peut pas paramétrer
bien sûr,
les facteurs, mais on peut le faire en milieu artificiel.
Bien sûr, mais vous allez vous retrouver, par exemple, au milieu naturel, vous allez vous retrouver avec des blooms décalés.
Des blooms, c'est quoi le bloom?
C'est un développement exagéré de phyto ou de zoo, ça dépend. Selon nous, on dit bloom phytoplanctonique ou bloom zooplanctonique.
Qui a pour origine ce développement?
Justement, c'est des paramètres du milieu qui vont agir. Par exemple, certaines espèces se développent à des températures bien précises. Et quand il y a une température qui favorise une espèce bien précise, on va avoir un développement exagéré de cette espèce. Nous sommes tous, on se souvient tous du bloom phytoplanctonique au niveau de la baie d'Alger.
Ça fait quelques années. Il y avait des imageries satellitaires.
Et ça, c'est naturel. C'est parce qu'il y a une température précise qui permet le développement d'une espèce précise et donc qui va exagérer.
On va peut-être faire une transition toute faite avant de donner la parole au professeur Yassine Hamden. Vous parlez de plancton, d'espèces. Moi, je voudrais parler d'algues. Il y a la fameuse algue brune dite japonaise, Regulopteryx otamuri, qui se développe. Il y a en ce moment des Algériens qui sont, alhamdoulilah, en vacances, qui se dirigent vers la plage. Est-ce qu'on pourrait, avec vous, avec le professeur Hamden, leur trouver un modèle prédictif? C'est parce qu'il fait chaud, c'est parce qu'il y a des nutriments, c'est parce qu'il a plu, Amkhir, qu'il y a eu lessivage des sols et qu'il y a eu prolifération de cette algue brune japonaise qui indispose les estivants. Comment faire?
Comment faire? Bon, il faut, ça c'est une solution, c'est un travail de recherche. Nous, on est au niveau du CNRDPA. On a commencé déjà à réfléchir sur la méthode d'exploiter déjà cette ressource.
D'en faire quelque chose.
Les biofertilisants surtout, et même pour l'aliment de poisson et tout. On est en train d'essayer de réfléchir.
Toute une question, j'allais dire. Je suis le citoyen bloqué par la circulation sur la RN11 pour aller du côté Tipaza. Et j'entends le directeur de recherche, de la division recherche d'un centre de recherche, qui nous dit qu'on peut, développer cette algue brune comme alimentation pour le poisson. Et le poisson, pourquoi s'il ne la mange pas dans ce cas-là? Et qu'il prolifère et qu'on le pêche après.
Quand on fait un travail de recherche, donc on va prendre au laboratoire, la traiter, pour déterminer un peu quel pourcentage il faut ajouter dans l'aliment. Ça se fait pas automatiquement.
On peut pas l'observer en milieu naturel.
Maintenant, il y a un travail qui devrait se faire justement pour trouver le moyen de lutte biologique, comme on le fait pour les moustiques.
Il faut
réfléchir à trouver le moyen de mettre d'identifier une espèce ou un truc qui va nous permettre de réguler sa prolifération. Mais ça, c'est un travail de recherche qui va demander une investigation sur le terrain et un travail.
Mais qui fait partie toujours du module adaptation au changement climatique. Les changements climatiques ne sont pas saisonniers. C'est pas juste en 2026. On est inscrit dedans.
Ils vont être permanents. Maintenant, d'ailleurs, on le voit avec l'apparition de nouvelles espèces qui n'existaient pas et qui sont rentrées par la mer Rouge. Et donc, on retrouve maintenant.
Ce qu'on appelle les espèces invasives.
Le crabe bleu, plusieurs espèces qui n'étaient pas là et la disparition d'autres espèces, le décalage des populations, par exemple la sardine qu'on ne retrouve plus dans les mêmes eaux parce que justement les températures sont ont changé, donc les lieux de reproduction, les périodes de reproduction, les conditions sont en train de changer et donc justement tout va être décalé ou déplacé d'une position à une autre.
Alors, nous sommes en plein changement, j'allais dire bouleversement climatique. Vous venez tous les deux, docteur Boudjnah, division recherche, dans un centre de recherche pour la pêche et l'aquaculture. Vous-même, professeur Hamden, laboratoire géosciences marines de la plus grande université d'Algérie. Est-ce que le facteur changement climatique vous interpelle pour adapter les programmes de formation et de recherche au changement climatique en général?
Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce petit retard. Donc effectivement, on l'observe, maintenant les changements climatiques, on est en train de vivre avec. Donc c'est une question, on parle d'adaptation, on parle aussi de résilience. C'est-à-dire il faut voir maintenant comment vivre avec ces changements climatiques. Et cela nous a conduit, nous a poussé à, en l'occurrence au niveau de l'USTHB, à adapter nos formations, à intégrer cette, je ne vais pas dire cette contrainte, mais ce ce paramètre-là qui à titre d'exemple, il y a des tempêtes qu'on observait très rarement, donc à l'échelle décennale, vingtennale. Maintenant, on les observe très, très fréquemment. Donc,
des fois, c'est l'occurrence qui a changé.
L'occurrence qui a changé. Je peux citer aussi, si vous permettez...
Bien sûr, allez-y.
Le fameux Rabi l'Ouest qui a duré l'hiver passé pendant plus de deux mois, presque deux mois.
57 jours exactement.
Exactement.
57 jours. Est-ce que c'est, pardon de vous interrompre, peut-être qu'on a été défaillant dans le système national d'information en Algérie entre décembre 2025 et janvier 2028, ces changements climatiques ont impacté le littoral. Il y a eu des incidences, on n'en connaît pas encore les conséquences. Mais pendant 57 jours, il y a eu un rarbi, un vent d'ouest, qui a fortement perturbé les activités tant aquatoles que marines que littorales, et on n'a pas, et aussi d'autres secteurs économiques. Je pense particulièrement aux stations de dessalement d'eau, parce que le courant génère de la turbidité, laquelle turbidité ne permet pas de dessaler en temps réel, il faut arriver à une décantation. C'est dire que ces bouleversements climatiques sont actés, mais peut-être qu'on ne les explicite pas assez.
On parle de bouleversement climatique, mais les phénomènes induits, c'est des phénomènes naturels. Donc, il faut qu'il y ait des flux de part et d'autre. On ne peut pas avoir, par exemple, une circulation nord-est, par exemple, Sherqi ou bien est. Sinon, ça peut avoir des conséquences. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, jusqu'à maintenant, on observait, par exemple, l'ouest ou bien le nord-ouest, on l'observait d'une manière importante, mais moins fréquente. Et l'année passée, donc, on a observé avec une occurrence très importante, mais aussi avec une fréquence qui a duré pendant presque deux mois. Donc,
est-ce qu'on a eu suffisamment le temps de voir, d'analyser et de sortir avec une sorte de modèle prédictif pour le futur ou pas?
Vous savez, à titre d'exemple, par exemple, au niveau de notre formation à l'USTHB, nos masters, on leur a demandé à tous d'intégrer ce paramètre pour cette année. Ça veut dire, dans tous les projets de fin d'études, ils ont intégré cet élément nouveau qu'on a observé cette année. Et c'est des phénomènes maintenant qu'on interprète, bien évidemment, et qui sont aussi prédictibles, parce que leur prévision, elle est assez maîtrisée pour le moment. Tout à l'heure, on a parlé des courants. Les courants, on peut les prédire aussi. Donc, c'est assez bien maîtrisé. Mais
par qui?
Par la communauté scientifique, déjà. Mais aussi, il faut une instrumentation, parce qu'on ne peut pas parler de maîtrise sans qu'il y ait une instrumentation, une observation continue qui accompagne ce phénomène-là.
On en parle depuis des années. Depuis des années, le format, j'allais dire, du littoral s'allonge. Ça fait 10 ans, on parlait de 1200 km de côte, puis on a parlé de 1400, on est à 1622 et parfois même à 2128, si mes souvenirs sont bons, selon qu'on en intègre ou pas les îles, les îlots, les criques, les baies. Juste un petit mot sur comment on calcule le linéaire côtier.
Vous venez de le dire, donc ça dépend de la méthodologie. Maintenant, si on tient compte de la géomorphologie, ça veut dire la forme côtière locale, à ce moment-là, le linéaire côtier va suivre même les petites formes, et cela va allonger le linéaire côtier. Vous savez, même à disons à 1200 kilomètres, et puis après il y a eu 1600 kilomètres. 1600, donc nous sommes un pays côtier, nous avons une culture aussi côtière, donc c'est une richesse. Donc à chaque fois je dis que le littoral, je pense qu'il faut éviter de le voir uniquement sous l'aspect écologique qu'on doit défendre, ne pas y toucher. On peut exploiter rationnellement et durablement le littoral. Donc c'est un patrimoine écologique, mais aussi un patrimoine économique. Mais pour sa meilleure conservation et exploitation, il faut le comprendre.
Et on n'arrive pas à le comprendre s'il n'y a pas d'outils d'observation. Comment comprendre tout un littoral si en Algérie, et si l'Algérie ne dispose pas des moyens d'observation et d'analyse de ce littoral?
Actuellement, on avance. Par exemple, là, dans notre université, non seulement on déploie des instruments
l'USTHB,
de mesure,
hein.
l'USTHB, donc non seulement qu'on déploie des instruments de mesure, mais aussi on développe les instruments de mesure. Donc, On développe. Donc, si vous permettez, un petit rappel, nous avons à l'USTHB un marégraphe de haute fréquence de mesure qui a été développé, qui est actuellement opérationnel au port d'Alger depuis 2022.
Ça fait 4 ans. C'est quoi très haute fréquence, si vous permettez.
Haute fréquence, ça veut dire qu'il ne donne pas uniquement le niveau de la mer, la marée, il donne même les ondes, les vagues, les houles, le ressac. Donc, il est là et l'ausculte. Maintenant, on est en train de réfléchir pour aller maintenant densifier ces instruments-là le long de la côte.
Pourquoi est-ce qu'il n'existe que au niveau du port d'Alger et non pas sur toute la façade maritime?
C'est le processus, parce que quand on développe un instrument de mesure, quand même c'est un instrument de mesure, donc c'est délicat, il faut qu'il soit éprouvé, testé sur le terrain.
4 ans, c'est
donc
pas suffisant.
Quatre ans, c'est largement suffisant. Maintenant, on doit aller vers son utilisation le long de la côte, et aussi là,
son utilisation, sa généralisation.
Voilà. Mais aussi si vous... Pas uniquement par rapport au marégraphe, mais vous savez, quand on détient la technologie d'une observation, qu'il soit pour les courants, bien qu'il soit pour l'anémomètre, ou bien tous les phénomènes météorologiques, ou bien d'autres instruments de mesure aussi, vous savez, quand on détient la technologie, c'est un atout pour nous.
Bien sûr.
Je vous donne un exemple. Notre instrument, par exemple, maintenant, qui ausculte, qui surveille et observe le niveau de la mer et mesure le niveau de la mer en continu. Vous savez, si par exemple au cas de panne, je peux vous dire que la panne ne peut pas durer une heure ou trois quarts d'heure. C'est une panne physique, je parle. Hein.
Bien sûr.
Je parle physique, pas une panne de transmission de données. Donc, on peut intervenir parce qu'on détient la technologie. Ça veut dire le remplacement, on peut le remplacer carrément.
Parce qu'il a été fabriqué.
Exactement.
Par vous-même et au niveau de l'USTHB.
Exact. Et ça nous est arrivé de remplacer un élément de cet instrument en un quart d'heure.
En un quart d'heure.
Oui, parce qu'on maîtrise la technologie. En revanche, quand la technologie n'est pas maîtrisée, généralement c'est des boîtes noires. Et...
Vous faites le distinguo entre un appareil de mesure développé au sein de l'université algérienne et posté, fixé au niveau d'une infrastructure portuaire algérienne en Algérie, et un appareil de mesure importé, acheté à l'étranger, qui est sous forme de boîte noire, et vous ne pouvez jamais intervenir sur le cœur du fonctionnement.
Pas dans ce sens-là. Je veux dire, par exemple, quand vous avez une panne, et quand vous maîtrisez la technologie, vous pouvez y remédier facilement, vous pouvez même remplacer l'appareil. Mais quand c'est une technologie qui n'est pas maîtrisée, donc supposons que la panne, on va intervenir au niveau de l'appareil pour régler le problème au bout de 24 heures minimum, donc 24 heures c'est un exploit, hein. Et ben vous pouvez avoir un phénomène qui peut se produire durant ces 24 heures-là. Oui.
D'accord.
Donc on peut avoir par exemple un phénomène de submersion marine ou bien un phénomène que l'instrument va rater. Donc c'est pour cela qu'à l'université, le rôle aussi de l'université, en l'occurrence le USTHB, on est en train d'aller dans les instruments de mesure. Et actuellement, par exemple, on a déposé plusieurs brevets d'invention dans l'instrumentation, et certains de ces instruments sont déjà sur le terrain.
Donc, sur le terrain, est-ce qu'au CNRDPA, on se soucie de ce que fait l'USTHB, par exemple, avant d'implanter ou d'implémenter une ferme aquacole, on fait appel à une étude de courantologie, courantométrie, on place un marégraphe pour voir est-ce que demain les cages ne vont pas dériver vers l'est ou vers l'ouest.
Ouais, ben ça, c'est une technologie pour nous, pour tout ce qui est, c'est du génie aquacole.
Du génie aquacole.
Oui, donc il y a donc l'investisseur, il va lui-même, on va lui dire voilà ce qu'il faut,
CNRDPA, excusez-moi de vous interrompre, fait une partie de l'étude technico-économique pour accompagner l'investisseur.
Ben Plus maintenant. Parce qu'au début, quand
oui.
plus, au début, quand l'activité a commencé, il y avait un manque sur la place en Algérie. Il n'y avait pas
dans l'espace socio-économique, on va dire.
Il n'y avait pas d'experts qui pouvaient assister et faire des études technico-économiques. Donc le CNDPR avait pris sur lui de réaliser ces études, d'accompagner les investisseurs. Maintenant, il y a des bureaux d'études qui ont ouvert. Donc il y a des spécialistes qui se sont installés et donc qui prennent en charge les études, même au niveau du CNRDPA. Il y a la filiale du CNRDPA qui justement prend en charge tout ce qui est études et encadrement. Donc
et
au niveau du CNRDPA, effectivement, on prenait en considération, on allait sur les sites, on déterminait un peu, on avait une idée globale sur la courantologie, sur la profondeur, sur les conditions, sur les contaminations, les zones de contamination qu'il fallait recenser, bien sûr, parce que une cache flottante qui se retrouve par exemple dans le sillage d'une crue
ouais.
peut être un sujet de stress pour le poisson, pour son alimentation, sa croissance correctement et sa respiration. Donc tout ça, donc tout ça devait être pris en considération pour
permettre,
et bien sûr c'est toujours le cas. Mais ça a été mis en place la méthodologie pour identifier les zones de développement aquaculture sur tout le territoire national. C'est une méthode qui nous a permis, avec des facteurs qu'il fallait déterminer, les contaminations. Et donc, tout ça, maintenant, il est bien résumé. Et les gens, quand ils veulent s'investir, ils vont au niveau des directions régionales. Et eux, ils leur donnent un peu le process pour aller s'installer. Et comme vous le dites, c'est un élément important. La courantologie, c'est un élément important pour déterminer justement la capacité d'un site pour pouvoir recevoir un élevage. Parce que les élevages, maintenant, c'est des élevages qui sont, par exemple, 10, 20, 30 cages. Il y a des
investissements lourds.
C'est des élevages lourds. Et donc, il y a et quand même, c'est des investissements classés. L'aquaculture, elle produit une pollution biologique par rapport à l'alimentation et tout. Qu'il faut être prêt à prendre en considération et à la suivre et à déterminer son impact sur la zone.
Dans le secteur qui fait tourner l'économie mondiale, le secteur oil and gas, il y a toujours l'amont et l'aval. Si on transpose ce modèle gagnant, j'allais dire, à tout ce qui est intervention en mer, pêche, aquaculture, est-ce qu'en amont, c'est l'université, les centres de recherche qui doivent cartographier la région pour permettre aux investisseurs, ou est-ce qu'on envoie un petit peu les investisseurs, petit bonheur la chance, on attend le retour, on analyse et on rectifie le tir. Comment ça se passe?
Vous savez, on peut imaginer, par exemple, on peut aller dans l'imagination, mais tout en étant dans la faisabilité. Il y a une information scientifique. Donc l'information
à la disposition des investisseurs.
L'information scientifique, elle est scientifique, donc on la publie, donc il y a des revues scientifiques qui valident par des reviewers, etc., les résultats scientifiques.
Ouais.
Mais maintenant, comment traduire maintenant? Donc ce qui serait très très intéressant, c'est de traduire cette connaissance scientifique en une information qui peut être donnée à tout le monde. Je ne vais pas parler uniquement, on ne va pas parler uniquement des bureaux d'études, ou bien, parce que le bureau d'études, à la limite, les bureaux d'études peuvent comprendre l'information scientifique, mais on peut aller au-delà. Imaginons maintenant, dans chaque port de pêche ou bien chaque port de plaisance, vous avez un espace, une cafétéria ou bien... Le foyer du pêcheur avec une télé ou bien une application. On peut utiliser des nouvelles technologies pour cela. Où le pêcheur va être informé, ou bien le citoyen, pas uniquement le pêcheur, d'une manière générale, parce que le citoyen, il est aussi consommateur de l'espace côtier. On a des ports de plaisance. Donc, pour inciter les citoyens à utiliser et aussi à sécuriser et aussi à responsabiliser. Là aussi, on peut parler de science citoyenne. Donc, c'est un sujet très, 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 très varié. Mais on peut imaginer, par exemple, des espaces où ces informations, où ces connaissances vont être traduites en informations qui vont être expliquées ou bien mises à la portée du citoyen. Et vous avez en conséquence, comme output, le renforcement de la résilience.
Ça se fait de temps en temps par les directions des thèses dans les centres de formation. Oui, docteur Boudjina.
Au niveau du centre de recherche, donc au niveau du CNRDP et tous les centres de recherche, on a coutume de dire que la recherche donc, produit de l'information scientifique. Et l'information scientifique, comme vous dites, alimente l'expertise. Parce qu'il ne peut y avoir une expertise correcte s'il n'y a pas une information scientifique disponible. Si je n'ai pas des éléments d'information de la recherche qui parle de la corantologie, des vagues, des zones, des paramètres physico-chimiques, des courbes de température de l'année, comment je vais faire mon expertise pour donner à un investisseur la possibilité d'installer son élevage? Donc, l'information scientifique, elle est produite par la recherche.
Et elle est développée comment? Je parle de l'information. Est-ce qu'il y a des sites spécialisés? Il y a des rencontres, des séminaires? Mais au-delà, si aujourd'hui je suis investisseur, je veux aller du côté de Douraya ou de Boucherel ou d'Elkala, je vais me déplacer vers la direction de la pêche et d'aquaculture locale. Oui. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir me donner? Et à la limite, je dirais, moi je suis investisseur économique, pour toi ce serait gratuit. Est-ce que cette information ne peut pas être, entre guillemets, commercialisée via un fonds ou un autre, pour alimenter un fonds ou un autre?
Mais c'est là le principe. Donc, la recherche produit, comme je disais, de l'information scientifique. Oui. Cette information scientifique, elle va servir qui? Elle va servir des ingénieurs, les techniciens qui vont s'atteler à réaliser une étude technique et économique et de faisabilité. Donc cette étude technique et économique, elle va se baser sur des éléments scientifiques. Par exemple, si on parle du cahier des charges zootechniques, ce que je disais tout à l'heure, oui, d'une espèce, le cahier des charges zootechniques d'une espèce, c'est des éléments sur sa température de croissance, sa température de reproduction, oui, les périodes, et tout ça, c'est des éléments scientifiques.
Comment les croiser, ces éléments? Vous parlez d'information, docteur Boudjina, d'information scientifique, elle est disponible où? Est-ce qu'en temps réel, le master ou le doctorant qui est chez le professeur Hamdan à l'USTHB peut consulter en temps réel ce que vient de publier ses confrères à Annaba, à Oran ou à Béjaïa? Est-ce que ça se fait en temps réel?
C'est publié. C'est publié. L'information,
elle est disponible. Elle peut être partagée.
Même pour l'investisseur, il peut se rapprocher des universités, des centres de recherche pour avoir ces informations-là. Maintenant, moi, ce que je voulais peut-être évoquer tout à l'heure, c'est quand on a commencé l'émission, on a parlé de la longueur de notre linéaire côtier. Donc, il serait impossible d'observer avec une instrumentation et densifier ou bien mettre dans chaque plage ou bien dans chaque endroit des instruments de mesure. Donc, aucun pays au monde ne l'a fait parce que ça demande beaucoup de moyens, surtout les moyens à la mer aussi, parce qu'on parle de moyens côtiers, mais il y a aussi les moyens à la mer. Ça nécessite des embarcations, un mouillage, etc., notamment pour les comptomètres. Les comptomètres, donc, pour nos chers auditeurs, c'est des instruments qui mesurent le déplacement de masse d'eau, donc le courant, tiarat, le bahriya. Donc ces instruments-là, on les mouille en mer, donc ça demande, en plus il y a le risque qu'ils soient entraînés par le courant lui-même, peut aussi endommager ces structures, ces appareils-là. Mais il y a ce qu'on appelle les sciences citoyennes.
Citizen sciences,
c'est que c'est responsabiliser l'informer, lui donner renforcer cette culture, et aussi imaginons maintenant un citoyen dans une plage isolée ou bien dans une côte isolée ou bien une falaise isolée. Donc, on le responsabilise si seulement, par exemple, il voit une espèce, il prend une photo il la communique directement à un centre de recherche à travers un QR code ou bien une application. Il va participer au renforcement de la connaissance, la valorisation de la connaissance, parce que le chercheur lui-même ne peut pas sillonner tout le linéaire côtier. Donc, ça, on doit aussi se pencher, pas uniquement sur l'observation, avec des instruments de mesure.
Mais sur la construction d'un réseau d'observateurs de la mer.
Réseau, un observatoire citoyen, par exemple, où... Mais tout d'abord, il faut qu'il y ait cette information, cette culture, cette responsabilisation, où le citoyen, par exemple, se balade sur la plage et puis il voit une plante, il la photographie, il l'envoie directement à un centre de recherche ou bien un laboratoire à l'USTHB ou bien dans n'importe quel laboratoire ou bien centre de recherche. Ça va renforcer toutes ce seront des données qui vont renforcer la connaissance. Et avec ça, vous imaginez comment on va comprendre le littoral, mais avec le moindre frais.
On va prendre un exemple, si vous permettez, puisqu'on reste dans la partie courant. Chaque année que Dieu fait, il y a des noyades sur les plages, sur le littoral. Une partie de ces noyades, mais on n'est pas outillé pour le moment pour les quantifier, sont dues à ce qu'on appelle les courants de baïne. Pour toi, on en parle une, deux fois par an, avec vous, professeur Hamdan notamment. Il n'y a pas encore de cartographie. On n'arrive pas à observer ces courants, leur occurrence. On n'arrive pas à les transposer sur... on voit le bulletin météo, il est assez riche. On nous dit des vents ou des courants d'est, 40 km heure. Mais les points, la localisation, la récurrence ou l'occurrence de ces courants, est-ce qu'on va... la règle post-mortem, analyser les noyades et dire chaque année, il y a des cas de noyades dans ce que parfois les jeunes de la région ou les vieux appellent l'OED. Pourquoi est-ce qu'on ne revient pas pour essayer de rendre visibles ces sciences citoyennes, professeur Hamdan?
Exactement, c'est un bel exemple. Par exemple, en parlant de ce courant qui est dangereux...
C'est quoi, au juste? Est-ce qu'on peut le déterminer? Est-ce qu'on peut l'expliciter?
Donc, le courant de rip current en anglais, ou bien le courant de baïne, ou bien le courant d'arrachement, ou bien blarbiya tiarat sahiba, ou bien avec notre dans notre région par exemple, à l'est on l'appelle le couloir, et ils vous disent il fallait pas y rouhir on fait le couloir. Couloir, et à l'ouest, je pense, il y a le Loued. Donc, déjà, géomorphologiquement, avec des images satellites, on peut observer, ou bien avec une photographie, ou bien même en étant sur un endroit un peu en relief sur la plage, on peut déjà observer des signes. Nous, en tant que spécialistes, on peut vous dire que cet endroit abrite maintenant un courant dangereux ou non. Parce qu'il y a une forme qu'on maîtrise actuellement et qui révèle de l'existence ou non de ces courants. Maintenant, le problème, c'est que les cartographies, ça veut dire que ça va être figé. Mais le problème, c'est que ces courants changent. Parce que la morphologie, le sable bouge, le sable sur les petits fonds bouge. Et ils suivent, donc il y a une relation entre le courant et ce qu'on appelle les dunes ou bien les barres sableuses sur les petits fonds. Donc, Il faudra suivre d'une manière continue ces courants-là, et ils sont maîtrisés, donc c'est facile à observer. Maintenant, ces courants-là, donc c'est des courants qui vont de la côte de la plage vers le large, et ils transpercent la zone de déferlement là où les vagues se cassent. Et le problème, c'est que le nageur ou bien le baigneur, quand il est pris dans ce courant, il essaye de revenir à la plage à contre-courant.
Et c'est très difficile, c'est peine perdue quasiment.
C'est un perdu. Donc ce qu'on conseille déjà, sincèrement, ça ne sert à rien, à mon avis, je sais pas, par des formations professionnelles, parce que on travaille beaucoup dans ce domaine-là, mais je déconseille quand on n'a pas pied, quand on n'a pas la profondeur, il faut avoir déjà il faut se maîtriser déjà. Donc à partir du moment où on commence à flotter, donc c'est dangereux. Voilà. Donc,
parce que le fait de flotter, on peut être emporté par un courant.
Vous savez, là, je ne parle pas uniquement des gens qui ne maîtrisent pas la
natation.
La natation. Ouais. Vous savez, et tout le monde est concerné par ce risque-là. Et tout à l'heure, vous avez parlé des vents de 80, de 60 km. Mais le problème de ces courants-là, ils naissent même en présence de vagues modérées. Ça veut dire même quand on a des vagues de 70 cm, de 1 mètre, de 50 cm. Donc, ces courants-là peuvent... peuvent exister. Donc voilà, il faut faire très attention à cela.
Question très directe, professeur Hamdan, dans le débat. Est-ce qu'il y a une wilaya particulière où on a constaté beaucoup de courants de baïnes, où il y a eu beaucoup de noyades, et à ce moment-là, on va classer cette wilaya ou en faire une wilaya pilote pour que la direction de la protection civile locale qui a en charge les secours en mer, les gardes-côtes, la direction de l'environnement, la direction de la pêche, les travaux publics, doivent unir leurs forces pour que dans cette wilaya pilote, on va essayer de comprendre le fonctionnement de ces courants de baïnes et le projet pilote pourra alors, avec les résultats attendus, être étendu aux autres wilayas. C'est possible, c'est jouable, ça va permettre de préserver des vies humaines.
Quand on parle d'environnement, bien quand on parle de phénomènes naturels, on ne parle pas de limites administratives. Donc un phénomène ne se limite pas à l'échelle d'une wilaya. Donc ces phénomènes-là, donc juste pour préciser, c'est des phénomènes. Le courant, c'est un phénomène naturel. Donc il y a plusieurs plages au monde où le courant de baïne est le plus puissant par rapport au nôtre. Mais les gens se baignent, mais avec des mesures de résilience. Par exemple, il y a des panneaux de signalisation qui informent de la présence ou non de ce type de courant. Et encore mieux, au cas où nous sommes entraînés, vous êtes entraînés, ou bien on est entraîné par ce courant, quel est le comportement avec une simple signalisation? Donc, c'est des courants naturels qui sont pas
je pense qu'on
peut facilement vivre avec.
Ce qui est important, ce que je comprends moi, parce que j'ai suivi un peu le débat. Ce qui est important, c'est que si on pouvait créer une formation ou les créer, former, par exemple les jeunes qui est
les agents de la protection, les surveillants,
parce que quand on arrive sur une plage, juste à l'observation. Pour l'œil d'un spécialiste, il pourra vous dire comment se comporte un peu la courantologie dans la plage. Si on arrive par exemple à dispenser une petite formation aux gens qui sont sur le terrain, ça pourrait changer des choses parce que vous arrivez sur une plage que vous connaissez pas, un baigneur ou un jeune qui va à la plage.
Il est de passage.
Il connaît pas forcément la plage. C'est ce qui se passe réellement. On retrouve des gens qui se noient. Généralement, c'est des gens qui arrivent et qui ne connaissent pas l'endroit. Et donc, si jamais il y avait une formation adéquate qui était dispensée aux maîtres nageurs, eux, en arrivant avec l'observation du comportement courantologique de la matinée, ils vont dire aux baigneurs de nager par là. Ça, c'est un élément qui pourrait...
Entièrement d'accord dans le débat. Vous savez, en Algérie, durant la saison estivale, l'Algérie accueille une partie de la Djalia qui viennent d'un autre continent. Oui. L'Algérie accueille aussi dans des centres de vacances des enfants venus du sud. Donc on comprend fortement que on ne peut pas tout connaître. Par contre, vous avez les deux, parler d'informations scientifiques, d'un système d'observation du littoral, comment, j'allais dire, entre guillemets, marier, c'est la période, l'information scientifique disponible avec les acteurs de la mer en été, les surveillants de baignade, comment les former?
C'est ce qu'on disait.
Comment mettre l'information scientifique à la portée du maître nageur?
Il y a un spécialiste en courantologie qui est avec nous, par exemple, et qui maîtrise et qui a une capacité de maîtrise et de pouvoir développer même une méthode de formation qui pourrait être dispensée et qui pourra permettre un peu aux gens d'anticiper ce genre de problème.
Avant la fin de l'été, on va pouvoir inviter la direction générale de la protection civile pour avoir à se prononcer. Peut-être que penser à la saison 2027. Exactement. Et commencer à réfléchir à un programme de formation, professeur Hamdan.
Juste pour préciser que voilà, c'est des phénomènes naturels. Donc, oui. L'estivant peut facilement se baigner, mais tout en faisant attention. Voilà, c'est exactement tout simplement.
Mais qui doit lui dire de faire attention?
Justement par rapport à cela. par rapport à cela, déjà il y a le, il y a déjà
le plagiste, il est là pour essayer de louer un parasol, une table et des chaises. C'est pas déjà, lui qui va lui dire il faut pas nager aujourd'hui.
Déjà nous avons déjà l'expérience, et déjà où nous sortons sur le terrain avec le mouvement associatif et on essaie d'expliquer certains phénomènes côtiers. Mais aussi je saisis cette occasion aussi, et si vous permettez,
bien sûr, allez-y, vous êtes là pour ça.
Voilà, nous sommes à la disposition. Maintenant on est en la saison estivale, on peut dire qu'elle vient de commencer parce qu'il nous reste encore presque 2 mois ou bien 1 mois et demi.
Je dirais même 2 mois et demi, jusqu'au 30 septembre.
Parfait. Donc déjà nous sommes à la disposition, donc on peut déjà imaginer des petits ateliers ou bien des passages spontanés au niveau des plages pour essayer d'expliquer aux estivants d'une manière très simple, sans alarmer, déjà expliquer l'environnement. Et on peut aussi même aller dans la protection de l'environnement pour éviter certaines pollutions, par exemple jeter les mégots de cigarettes sur la plage, qu'est-ce qu'il peut provoquer, le plastique, les microplastiques, etc. Bien donc sûr. Ça on peut le faire. Mais là je reviens aussi à l'observatoire, si vous permettez, monsieur Blaksem, à l'observatoire citoyen de la mer.
Observatoire citoyen de la mer.
Donc je pense que pourquoi pas chaque commune côtière ne disposerait pas d'un observatoire citoyen de la mer qui sera alimenté et dynamisé par les universitaires, les centres de recherche et le mouvement associatif. Et nous sommes encore une fois à la disposition de ces toutes initiatives, non seulement on va s'y inclure, mais aussi on va être dans ce dynamisme, même dans le lancement de ces observatoires-là.
Vous savez, je voulais juste donner un exemple de cette observation journalière de la mer. Vous savez, dans les archives du CNRDPA,
qui existe depuis
1921, qui est sur la base, qui a été créée sur la base de la station conciliée d'aquiculture de Castiglione, qui elle a été créée en 1921. Et donc nous avons des archives du créateur de cette station, qui le matin il se réveillait et lors de sa balade il voyait par exemple un phénomène et il rédigeait une note. Nous avons encore ces notes qui sont dans les archives au niveau de la bibliothèque, où on retrouve, par exemple, je suis sorti le matin, j'ai vu un poisson qui est sorti, et il décrit le poisson, il décrit le phénomène ou autre chose, et il le met. Bon,
C'est consigné.
Mais c'est,
ça ne se fait plus. C'est la mer qui a reculé, c'est la formation qui est.
Ça se fait. D'ailleurs, j'allais en arriver à ça. Je voulais vous dire aussi que aujourd'hui, les pêcheurs, nous sommes en contact avec les pêcheurs du littoral à Bousmaïn, et dès qu'il y a un petit problème ou un petit phénomène qui apparaît, ils nous ramènent. Et ils viennent, les gens, de simples citoyens, ils ramènent le spécimen, ou là ils ramènent, ou là ils nous informent sur quelque chose qui est arrivé, et ils viennent, au niveau du
comment dupliquer ce système qui existe à Bousmaïl, dans la wilaya Tipaza, sur les 14 wilayas côtières?
Non, il existe ailleurs aussi. Et par exemple, nous avons la station de Benissaf, où dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a par exemple une tortue qui apparaît, les pêcheurs la ramènent au niveau de l'aquarium de Benissaf, et elle est prise en charge, par exemple, par l'équipe là-bas. Nous avons beaucoup d'exemples. Si vous regardez un peu les vidéos de la station de Benissa, vous allez voir que de simples pêcheurs, de simples citoyens ramènent des trucs qu'ils retrouvent, par exemple, ou quelque chose qui apparaît pour au niveau de la station pour qu'elle soit prise en charge.
J'avais envie de dire c'est bien, c'est beau, mais ça ne transparaît pas. Je veux dire, il n'y a pas de page spécialisée d'alerte et de coordination sur l'ensemble du littoral. Tout le monde n'a pas la chance.
On a besoin un peu de généraliser ou bien de structurer ou de mettre un peu des mécanismes pour pouvoir.
Ça devrait être le rôle de qui? Il y a eu des élections législatives, il va y avoir fort probablement un nouveau gouvernement. Est-ce que vous serez d'accord pour un secrétariat d'État à la mer?
Oui, bien sûr.
La mer, c'est une dimension. Sur l'espace maritime, on va pouvoir retrouver, bien entendu, le tourisme, l'intérieur, le transport, l'énergie, le secteur des ressources en eau, puisqu'il y a du dessalement. Il va y avoir le secteur des ressources en eau pour les stations de l'ESTEP, les stations d'épuration. Il va y avoir le ministère des télécoms, parce qu'il y a de la fibre optique et tout, c'est beaucoup.
Et tu as gonflé ce ministère.
Non, je veux dire, c'est le domaine public maritime n'a pas d'instrument de coordination. Sur les textes, il y a bien le Haut Conseil de la mer, oui, qui existe sur le journal officiel depuis 1998, oui, mais qui n'a pas été assez actif. Je pense qu'il serait grand temps qu'il y ait une structure ayant la charge du littoral, mais pas comme il faut le dire, le commissariat national du littoral, qui n'a pas les moyens, mais il faudrait une autorité de régulation du littoral. Professeur Hamdan.
Moi, je pense déjà au niveau des communes côtières, déjà, on parle de gestion intégrée des zones côtières.
On parle. Non, on pratique pas.
Non, même dans les textes. Assez. Même dans les textes, il y a aussi, je pense, le conseil de coordination.
Les 3C, oui.
Exactement, au niveau de. Donc voilà. Donc c'est un problème. Donc on peut pas parler du littoral en étant uniquement biologiste, ou bien géomorphologue, ou bien ingénieur, ou bien biologiste.
Donc, ou transporteur.
Transporteur, ou bien sociologue aussi. À ça, chaque fois, on oublie cette composante de sciences humaines, exact, qui est très très importante dans la conservation et l'utilisation durable du littoral. Donc, c'est une question intégrée, donc, qui implique non seulement des disciplines, une vision interdisciplinaire, mais aussi transdisciplinaire. Donc, voilà. Donc, quand on a une question côtière, un problème côtier, on ne peut pas se limiter à une explication d'ingénierie, ou bien de biologiste, ou bien il faut voir le problème en amont. Ça pourrait être un effet sociologique, ça pourrait être un facteur, par exemple, physique, ou bien un problème d'ingénierie, par exemple.
C'est le cas, pardon, actuellement, de cette colère, pas de cette colère, cette algue brune, dite japonaise, Regulopteris okamure, qui cause des dégâts, qui empêche une activité socio-économique sur le littoral. On n'entend pas pour tout parler, alors qu'elle a un impact réel sur le littoral.
Impact, mais pourquoi on ne la verrons pas de...
Un impact, j'ai pas dit négatif.
Hein. Exactement. Donc c'est une algue, donc pourquoi ne pas la voir, ou bien la prendre
comme une matière première.
Comme une matière première. Oui. Donc il faut juste rappeler que cette sédimentation, parce que c'est une sédimentation, ouais, sur la plage, qu'on appelle dans le langage scientifique les banquettes, c'est des, quand elle n'est pas exagérée, hein, donc quand il y a un petit dépôt sur la plage, nous en tant que scientifiques, on recommande de laisser ces traces-là, parce qu'elle protège la plage contre l'érosion côtière. Et ça donne aussi, si vous permettez, ça donne aussi un paysage naturel. Maintenant, quand c'est exagéré, ça veut dire il y a, je vais pas dire un dysfonctionnement, je suis pas spécialiste en biologie marine, mais puisqu'il y a une matière première qui est sur la plage, donc on peut encore une fois déployer la ressource humaine pour essayer de comprendre et de voir comment peut-on valoriser cette ressource-là.
On la récupérer, voilà, parce que bon, il y a des sulfures, hein, qui sont dégagés après décomposition.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça crée des conditions quand même d'anoxie au niveau des ondes. Donc il y a un développement des bactéries sulfuroréducteurs, et donc on a cette odeur qui apparaît.
Qui indispose.
Qui indispose. Mais bon, des fois, moi je suis en train de suivre un peu. Quand elle sèche un peu sur la roche, elle devient quand même, comme il disait, assez
intéressante. Il y a le volume qui diminue.
Voilà, assez intéressante, parce qu'elle protège un peu, elle crée une plage qui est recouverte de trucs. Je pense que c'est un travail de recherche qu'il faudra développer.
Il y a eu des soutenances, et le professeur Hamdan peut en parler, au niveau du STHB, sur Regulopteris okamure, qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Il y a eu des travaux assez avancés pour en faire des savonnettes, pour en faire des biofertilisants, mais toute la problématique, elle est là, entre le laboratoire, la recherche et le reste de l'espace socio-économique, il y a comme un maillon manquant.
Vous savez, déjà, c'est un phénomène qui est assez récent. Donc, on parle de cette prolifération bien, depuis l'an dernier, je pense.
Deux ans.
Ce qui est bien, c'est qu'actuellement, au niveau connaissance et état de l'art, nous commençons déjà à avoir beaucoup de connaissances par rapport à cela. Mais maintenant, par rapport au maillon bien manquant entre le lien université-entreprise, effectivement, donc il faudra travailler sur cela, aller vers le secteur socio-économique, proposer et travailler peut-être en collaboration.
Et ça sera l'objet d'une autre émission, si vous permettez, on arrive à la fin. Merci à l'instant, professeur Yassine Hamdan, spécialiste en géosciences marines au niveau de l'USTSB, et au docteur Mustapha Boudinah du CNRDPA. Quant à nous, on se retrouvera mercredi prochain, même heure, même station.